nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Complètement rétabli. Il lui dit, c'est normal, vous avez eu une grande fatigue. Il faut vous reposer un peu maintenant. Il lui dit, ce sera pas difficile parce que je n'ai envie de rien. Il la regarde bien pour voir s'il ne voit pas quelque chose qui lui montre qu'elle est une mutante. Mais il ne voit rien. Il se dit, il paraît qu'on les reconnaît à leurs yeux. Elle lui demande, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Rien, j'essayais de voir si vous n'étiez pas fatigué. Elle lui dit, oui, je suis. Je sais, j'ai une tête déplorable, mais après un bon bain et une heure de sommeil, ça ira mieux. Il lui dit, je vais vous laisser vous reposer. Il se lève, elle aussi, et vous raccompagner. Et elle le raccompagne jusqu'à sortir. Avant d'ouvrir la porte, elle lui dit, merci pour tout, et se penche pour l'embrasser. Il a un réflexe instinctif de recul. Puis, s'est laissé faire. Après l'avoir embrassé, elle ouvre la porte. Il est sorti. Et il entre chez lui. Il se sent drôle et moche d'avoir eu ce réflexe de recul pourvu qu'elle ne se soit rendue compte de rien. Et pourtant je l'aime. fin d'après-midi, il décide d'aller sonner chez elle pour voir si elle n'a besoin de rien. Il sort de chez lui. Hésite avant de sonner. Et sonne. Elle ouvre la porte. Elle est en peignoir bleu. Il lui dit, « Je m'excuse de vous déranger, mais j'aimerais savoir si vous avez besoin de rien. » Elle lui dit, « Non merci, j'ai mon réfrigérateur très bien rempli et mes médicaments. » Il lui dit, « Demain matin, je vais travailler et je ne rentrerai qu'à 17h30. » Il lui tend un papier. « Voici le numéro de téléphone de mon entreprise. Vous pouvez m'appeler à tout instant, pour n'importe quoi. Vous apporterai tout ce que vous voulez, ou pour une chose ou une autre. » Elle prend le papier et lui dit, « Vous êtes gentil, je vous remercie. Je suis tout à fait bien maintenant. Bon, eh bien je vous laisse. » Et il s'éloigne. Elle ferme la porte. Lui rentre chez lui. Le lendemain après-midi, il pense à elle comme avant. Cela lui fait plaisir. Mais se demande, si elle me propose de coucher avec elle, le ferai-je? Je suis stupide. Des tas d'hommes ont couché avec elle et ont été très heureux. Oui, mais eux ne savaient pas qui elle était. Et alors, qu'est-ce que ça peut changer? Et puis il y a des humains qui font l'amour d'une façon perverse entre eux. Et puis, de la faire avec une mutante, ce n'est pas comme si je la faisais avec ma mère. Il est furieux. Et se dit, je devrais arrêter de penser à tout ça. C'est Marie, et c'est tout. Avant d'entrer chez lui, il va sonner chez elle. Elle lui a ouvert. Elle a le sourire aux lèvres. Bonjour, bonjour. Je viens prendre de vos nouvelles. Elle lui dit, je vais très bien maintenant. Merci, entrez. Il entre. Elle ferme la porte. Elle le mène au salon. Entrez. Asseyez-vous. Il s'assoit dans un fauteuil. Vous désirez boire quelque chose? Non, merci. Elle s'assoit en face de lui. Elle lui dit, j'ai bien pensé à vous. Je pense que je vous dois quelque chose pour votre gentillesse. Mais non, pas du tout. C'est tout à fait normal. Elle lui dit, pas du tout. Vous avez été très gentille avec moi. Et je dois vous offrir quelque chose. Il lui dit, vous n'avez rien à m'offrir. Elle lui dit, je crois ce qui vaudra mieux, c'est que nous voyons ce soir. Ce sera mieux. Vous êtes un peu fatigué de votre journée. Venez à 20h30. Nous dînerons et nous passerons la soirée ensemble. Ça vous va? Oui, merci. Et elle se lève. Il se lève lui aussi. Elle lui dit, bon, alors à ce soir, ils sortent du salon. Elle le mène vers la sortie. À ce soir, oui, à ce soir. Le soir, à 20h, il va sonner chez elle avec un bouquet de 7 roses. Elle est ouverte. Entrez. Il entre. Il lui donne les roses. Elle les prend, lui dit, il ne fallait pas. Elle l'embrasse sur la joue. Si vous continuez toujours à me faire des cadeaux, je serai toujours votre débitrice. Allons au salon. Elle le mène au salon. Entrez. Une fois au salon, asseyez-vous. Il s'assoit. Elle va prendre un vase sur la cheminée. Pour le mener à la cuisine, elle remplit un seau pour y mettre les roses. Et elle revient. Elle met les roses dans le vase et met le vase sur une table basse. Elle lui dit, elles sont charmantes vos fleurs, merci. Et elle s'assoit près de lui. Elle lui demande, vous avez passé une bonne journée? Il lui dit, oui, comme d'habitude. Paris est une fournaise. Elle lui dit, presque toutes les villes de France le sont. Et il y en a qui sont plus chaudes, Guillaume. Est une vraie fournaise, elle. Vivement que l'été se termine, il lui demande, qu'allez-vous faire après? Elle lui dit, je vais me reposer, rien que me reposer. Il lui dit, c'est bien. Elle lui dit, bon, nous pourrions peut-être nous mettre à table si vous le voulez. Oui, je veux bien. Elle se lève. Venez, elle le mène à la salle à manger. Asseyez-vous. Elle lui dit, c'est simple, un peu de potage, des crustacés, une glace. Rien de plus. Voilà. Le repas se passe très bien. Il lui a posé des questions sur l'Italie. Repas, elle lui dit, allons au salon. Et il la suit. Asseyez-vous. Elle le fait asseoir sur un canapé et s'assoit près de lui. Et il lui demande, vous désirez boire quelque chose? Non, merci. Elle sourit et lui dit, vous savez que j'ai un cadeau à vous faire. Il lui dit, vous l'avez déjà fait avec le repas. Elle lui dit, oui, mais il faut plus. Alors je me suis demandé ce que je pouvais vous offrir, qui vous ferait vraiment plaisir. Je me suis dit, c'est un garçon charmant, beau, jeune. Il lui dit, j'ai trop de qualités, arrêtez. Elle lui dit, laissez-moi finir, c'est assez compliqué comme ça. Oui, où en étais-je? Il lui dit, que j'étais un vieux laid et sale. Elle lui dit, oui, bon. Alors, je me suis dit, tu vas avec tous les hommes, avec des tas d'hommes, tu acceptes de jouer avec eux, et lui, non. Pourquoi? Pourtant, il est très gentil, il est le plus beau que je connaisse, et en plus, il m'aime. Alors, je me suis dit que le plus beau cadeau que je puisse te donner, c'est celui-là. Il est rouge de confusion et lui demande, qu'est-ce que vous en pensez? Il ne sait que dire. Elle lui dit, répondez au moins. Il dit, je ne sais pas, j'aurais trop peur de vous perdre après. Elle lui dit, ridicule, pourquoi, remarquez, je ne sais pas comment ça va se passer, peut-être que ça se passera pas bien, je ne sais pas, il lui dit gêné. Ah, vous voyez, il y a un risque, elle lui dit, dans toute expérience, il y a un risque, mais c'est... celle-là n'est pas très grave. Il lui dit, si tout de même la perte de votre amitié, elle lui dit, quoi qu'il arrive, je vous jure que ça ne nuira jamais à notre amitié. Ah, on y va. Elle ouvre ses épaules et lui dit, allons-y. Elle se lève. Il tend la main. Allez, debout. On a l'impression que je vais te mettre au supplice. Je ne suis pas si désagréable que ça. Il se lève. Elle lui prend la main et elle le mène à sa chambre.
Elle ouvre la porte, la referme derrière eux. Elle le met face au lit. La pièce est dans la pénombre. Il n'y a pas le moindre bruit. Elle baisse les yeux. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Elle ouvre, la fermeture est claire, qui se trouve dans le dos de sa robe, qui tombe à terre. Elle est nue. Il est ébloui par ce corps impeccable. Il a chaud. Ses mains tremblent. Il ne pense plus à rien. Sauf Marie, Marie. Il se plaque contre elle, sans son corps contre le sien. L'embrasse sur les... de partout sur les lèvres. Il caresse ses cheveux. Plus il la caresse, plus il a besoin de la voir. Il bande fort. En restant plaqué contre elle, il l'allonge sur le lit. Il l'allonge sur le lit. La caresse de partout. Ses beaux seins pleins. Ses cuisses. Il a chaud. Il ne sait plus ce qu'il fait. Se soulève légèrement. Elle lui enlève sa cravate. Lui défait sa chemise. Il quitte sa veste. Et son pantalon. D'un geste brusque, il quitte son slip. Elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux. Une heure plus tard, la chambre est dans la demi-obscurité. Ils sont allongés sur le lit, nus. Leurs vêtements sont au pied du lit. Il a sa tête sur ses seins. Elle sourit et lui dit « Tu vois, ça s'est bien passé. » Elle l'embrasse sur la tête. Thank you.
Une demi-heure plus tard, elle lui dit « Il faut que tu partes. » Il lui demande « Pourquoi ?» Elle lui dit « Parce que je ne peux pas dormir avec quelqu'un. Je ne pourrai jamais. » Il lui demande « Même avec un homme que tu aimes ?» Oui, même avec un homme que j'aime. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, j'ai besoin de tout mon lit pour dormir. Et si je sens une personne près de moi, je ne peux pas dormir. C'est physique. Elle lui frotte le front, la tête et lui dit « Allez, lève-toi, mon Mimi. » Il soupire, se lève et lui dit « Tu es cruel. » Elle lui donne un baiser sur la joue et lui dit « Tu as un amant extra. » Elle lui demande « Peux-tu prendre ma douche ?» Elle lui dit « Oui, bien sûr. » Il prend ses vêtements qui sont à terre et va dans la salle de bain. Il entre dans la salle de bain et entre dans la baignoire. Puis, il prend sa douche. Tout en prenant sa douche, il voit l'armoire à pharmacie. Cela lui rappelle ce qu'elle est. Merde! J'ai fait l'amour avec une mutante. Malgré lui, cela le dégoûte. Je suis un salaud, un porc. Et puis il se dit, merde, merde, j'ai pas mis de préservatif. Alors il se frictionne, surtout les parties intimes et les mains. Il en est tout essoufflé et rouge. Elle a peut-être donné... Elle m'a peut-être donné de ces maladies transmissibles aux hommes. Merde! Il se lave, il se lave. Une demi-heure plus tard, il sort de la salle de bain habillé. Il la retrouve au salon, en peignoir. Il ne peut s'empêcher, malgré lui, de la trouver très belle. Elle lui dit, tu veux un dernier verre? Dernier verre? Non, merci. Dernier verre? Non, merci. Je dois me coucher. Alors, elle le raccompagne. Avant d'ouvrir la porte, elle se pend à son cou. Il sent sous son peignoir, son corps. Elle l'embrasse. Il l'embrasse et la plaque plus fortement contre lui. Elle lui dit, arrête, je ne vais pas m'en aller. Je ne vais pas m'en aller. Qu'est-ce que tu es brusque? Allez, ne fais pas ça. Ne fais pas cette tête. Allez. Elle ouvre la porte et il sort. Il va rentrer chez lui. Une fois chez lui, il va reprendre encore une fois une douche. Dans sa salle de bain, il se déshabille. Le lendemain, pendant toute la journée, il pense à ce qu'il a fait et se sent dégoûtant. Puis, il a peur. Alors, il téléphone à son médecin. Pour un rendez-vous urgent. Le médecin veut bien le recevoir à la sortie de son bureau. Le médecin de Denis se trouve dans la même rue que son entreprise. Il habite un immeuble cossu du 19e de 3 étages. Il entre dans l'immeuble. Allée de marbre, escalier large, belle rampe, sur les paliers, deux portes, avec des moulures bien cirées. Il va sonner à la porte du médecin. lui a ouvert une femme en blouse blanche, grande, mince, cheveux châtains, visage agréable.
« Oui, monsieur, »
il lui dit. « Je suis Denis Dufour et j'ai rendez-vous à 16h30. »«
Bien, monsieur, entrez. »
Il entre. Hall d'entrée clair, belle boiserie et moulure, commode Louis XV. Il suit la secrétaire. Elle ouvre une porte vitrée.
Entrez, monsieur.
Il entre. C'est la salle d'attente. Une grande pièce meublée Louis XV, en salon, avec cheminée. Il n'y a personne. Sur le dessus de la cheminée, il y a une pendule d'époque où on entend son tic-tac. Il s'assoit. Tout d'un coup, il se sent stupide. Comment a-t-il cru qu'elle lui ait donné une maladie? Et elle s'est donnée à lui. Il a eu du plaisir. Elle a été douce et gentille. Et voilà que pour la remercier, il va voir ce médecin qui va certainement la dénoncer, pour ainsi dire, car il sera obligé de dire avec qui il a eu un rapport. Je suis un salaud, je suis un salaud. Le miroir qui est au-dessus de la cheminée lui montre son visage défait. Se dit, tu as l'air d'un traître. Puis il a envie de partir, comme ça, sans rien dire. Il se lève, s'apprête à partir, mais une voix lui dit, « Et si tu as été contaminé ?» Il a chaud, peur, et retourne s'asseoir. Il attend. Puis, la porte qui est en face de celle où il est entré s'est ouverte. C'est le bon docteur Morel, un lourd homme, grand, mince, à cheveux gris. Il porte un costume gris, une blouse blanche. Denis se lève. Le docteur va vers lui. Denis se sent coupable, mais dès que le médecin lui prend la main et la lui garde en le regardant d'une façon bonne, il prend confiance et se dit que ce bon médecin, son ami, va tout arranger lui. Le médecin lui dit, « Comment allez-vous, Denis ?» Il lui répond, « Ça va, docteur. » Le médecin lui dit, « Vous avez mauvaise mine, c'est ces chaleurs. Cette année, l'été n'en finit pas. Allez, venez dans mon cabinet. » Et il le met dans son cabinet. Entrez. C'est un grand bureau clair, tapisserie claire, crème, meubles Louis XV. Derrière le bureau, il y a une fenêtre très grande. Asseyez-vous. Il s'assoit. Et le médecin va s'asseoir dans son fauteuil qui est en face de son bureau. Je vous écoute. Qu'est-ce qui ne va pas?
avant, je vais vous prescrire un peu de fortifiant. Prend sur son classeur une feuille et note avec son stylo en or. Puis il dit « Je vous écoute ». Denis hésite. Le médecin lui dit « Je peux tout entendre, je connais la vie ». Alors, Denis avale sa salive. « Tant pis. Oui. Tant pis. Je suis un salaud, mais il le faut. » Et dit « Je crois que j'ai attrapé une maladie. » Le médecin lui demande « Comment ça ? Vous sentez pas bien ? Vous avez mangé quelque chose d'avarié ?» Denis lui dit « Tort. J'ai eu un rapport avec une personne. » Le docteur lui dit « Ah, je vois. C'est pas grave. Si vous avez quelque chose sur le sexe ou ailleurs, nous vous ferons faire une prise de sang. Vous vous êtes pas préservé ? Non. La prochaine fois, il le faudra. Vous pensez que il y avait un risque ? Que c'est une personne à risque ? Oui. Ah, prostituée, transsexuelle, par exemple ? Denis rougit, le docteur lui dit. Je suis pas là pour juger. Et tous les goûts sont dans la nature. Quoique ça m'attriste un peu de savoir que mon Denis... Denis est rouge et lui dit « Non ». Le médecin lui dit « Personne normale, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous avez trop peu de risques à avoir une maladie. » Denis lui dit « C'est une mutante. » Le médecin sourit et lui dit « C'est ridicule, cela fait 20 ans que l'on ne fait plus. Ils ont disparu, eux et leurs consorts. Vous êtes mis des idées dans la tête. » Denis lui dit « Non, je vous assure. » Le médecin déchire l'ordonnance et lui dit « Vous n'avez besoin de rien. » Denis panique et se dit « Il me laisse mourir !» Il lui dit « C'est une pure vérité. » « Expliquez-vous, c'est très important. Si ces choses existent, on doit le savoir. » Denis lui dit « Une de mes voisines a eu un malaise. Elle a été menée à l'hôpital. Je suis allé avec elle et le médecin m'a dit que d'après ses analyses de sang, elle était une mutante. » Le médecin lui dit « Vous avez mal compris, le médecin vous a dit une bêtise. Car si c'était vrai, il l'aurait gardée et détruite. » « Il ne l'a pas fait parce qu'il est pour les droits de l'homme. » Le médecin lui dit « Ah, je vois, un illuminé. Et alors, c'est pas parce que vous avez une voisine mutante que vous devez être malade. » Denis baisse la tête et lui dit « Elle m'a séduite et comme elle est très belle. » Le médecin lui dit « Je vois. » Il prend un papier d'ordonnance et refait l'ordonnance. « Vous allez me faire faire ces examens de toute urgence. » Il lui tend la feuille. « Merci, docteur. » Le docteur lui dit « Tenez-moi le nom et l'adresse de cette femme. On ne sait jamais. S'il faut l'examiner. » Denis la lui donne. Le médecin se lève. « Allez, courage. Avec vos résultats. Merci, docteur. » Et le médecin leur accompagne.
Une fois dehors, Tony, à la tête qui tourne, ne sait plus où il en est. Il se dit qu'il est un fumier, un lâche. Et pour se punir, il déchire l'ordonnance. Et entre dans sa voiture. C'est de prévenir Marie pour qu'elle se cache. Il roule à vive allure. Sort de sa voiture et entre dans son appartement, dans son immeuble. Il prend l'ascenseur. Il va sonner chez Marie. Elle lui ouvre. Vous êtes tout essoufflé? Qu'est-ce qui vous arrive, Denis? Entrez. Il entre. Elle ferme la porte. Il lui dit, Marie, il faut absolument que vous partiez. Mais pourquoi? Parce que vous êtes en danger. On va venir vous prendre. Mais qui? Des gens, des policiers, je ne sais pas moi. Mais il n'a rien fait, je le sais, mais ils vous veulent. Allez, faites vite votre valise en vitesse. Mais allez où? Quoi faire? Nous verrons bien. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.